Ma pied sur terre.
C'est direct de chez lui.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter la faute.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se part. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi 1er juin 2020.
Et on commence tout de suite à l'international avec un sujet évidemment sur l'actualité, enfin ce qui fait l'actualité en ce moment, les émeutes aux États-Unis. Puis on enchaînera sur un sujet mêlant international et national, hein, qui va parler du rôle des expertises médicales dans, pour construire l'impunité de la police. Puis, pour passer vraiment au national, on vous parlera des suppressions de postes chez Renault et le début d'une longue liste de vagues de licenciements. Puis on enchaînera sur un sujet sur le harcèlement sexiste sur les réseaux sociaux Curious Cat. Après une petite pause musicale, on vous parlera de la nouvelle stratégie de communication d'Emmanuel Macron. Et pour finir au national, on vous reparlera de la reprise des conseils de discipline à la RATP.
Et enfin, au local, on aura un petit reportage sur le rassemblement des sans-papiers qui a eu lieu à Lyon ce week-end. Et peut-être, très certainement, l'interview d'une infirmière de Saint-Jean-Dieu. Et aussi, peut-être, si on règle nos petits problèmes techniques, un petit adieu à Gérard Collomb.
Et donc, on commence tout de suite à l'international par, évidemment, le mouvement actuel aux États-Unis.
Oui, voilà. Donc, le 25 mai, donc jeudi dernier, George Floyd... noir est tué dans le Minnesota par un policier qui lui a écrasé la nuque avec son genou jusqu'à l'étouffer. Depuis, il y a aux États-Unis tous les jours des manifestations et toutes les nuits des émeutes. Tout simplement parce que ce n'est pas la première fois et certainement pas la dernière que des Noirs sont tués sans état d'âme. On vous avait déjà parlé ici du meurtre par un père et son fils d'un jogger noir sous prétexte qu'il avait l'air d'un voleur. Il avait fallu que la vidéo de ce meurtre devienne virale plusieurs mois après pour que les responsables ne seraient-ce qu'arrêtés. Récemment, il y a eu aussi la vidéo d'une altercation entre une femme blanche et un homme noir. L'altercation portait sur le fait que la femme n'avait pas attaché son chien dans une zone de préservation des oiseaux et donc où les chiens devaient être attachés. L'homme qui filme et lui demande donc d'attacher son chien interagit avec elle et on passe tout de suite un petit extrait de la vidéo.
There is an African American man. I'm in Central Park. He is recording me and threatening myself and my dog. I'm sorry, I can't hear you either. I'm being threatened by a man in the Ramble. Please send the cops immediately.
Alors, ça a l'air effrayant ce qui arrive à cette femme. Ce que vous venez d'entendre, c'est donc cette femme appelée effectivement la police en faisant comme si elle était en danger. Et ça s'entend, on a vraiment l'impression qu'elle est en danger. Elle le joue très bien. Le problème, c'est que sur la vidéo, on constate que l'homme essaie de se tenir à distance d'elle. Il lui demande même de ne pas s'approcher. Et à aucun moment, il n'y a de contact physique. Ce qui est problématique, c'est bien sûr la fausse accusation, mais surtout l'insistance avec laquelle elle précise qu'elle est face à un homme noir. Elle sait très bien quand elle appelle peut mettre en danger cet homme et elle s'en sert pour l'intimider. Cette histoire finit plutôt bien puisqu'elle est aujourd'hui la risée d'Internet et elle s'est même fait renvoyer de son travail. Mais la menace policière sur les personnes noires est réelle. La preuve est donc quelques jours plus tard la mort de George Floyd. Pour le coup, je ne vous passe pas d'extrait de sa mort car c'est très violent, mais la vidéo qui tourne montre très distinctement un homme blanc écraser George Floyd pendant de longues minutes, lui assénant en boucle l'ordre de se lever pour entrer dans la voiture de police, ordre auquel il ne peut pas se soumettre puisqu'il est menotté et immobilisé face contre terre au sol. Et celui-ci supplie, se plaint très difficilement de ne pas pouvoir respirer et appelle sa mère. On y voit très bien le moment où il meurt et c'est difficilement soutenable. Émeute donc, puisque les policiers présents ont certes été renvoyés dès le lendemain, mais ni poursuite ni arrestation n'ont eu lieu. On sait aussi que le renvoi est uniquement dû à la médiatisation de ce cas. Pas de vidéo égale pas de sanction. On sait aujourd'hui que Derek Chauvin, celui qui a directement tué George Floyd, avait déjà fait la cible de 18 plaintes au long de sa carrière, sans suite. Le poste de police où travaillaient les policiers a été incendié. Il y a des pillages qui sont toujours le signe d'un manque de confiance dans la société dans laquelle on vit. Il n'y a pas de pillage quand la société est juste et égalitaire. Et c'est dans tout le pays qu'il y a des révoltes. Ce week-end, c'était à New York, Philadelphie, Dallas, Las Vegas, Seattle, Des Moines, Memphis, Los Angeles, Atlanta, Miami, Portland, Chicago, sûrement d'autres, mais aussi à Washington, où Donald Trump a été conduit dans un bunker pendant une heure pour s'assurer que personne ne s'en prenne à lui. Peur sûrement liée au fait qu'il est publiquement appelé à tirer sur les émeutiers. Les arrestations pleuvent évidemment et on note quand même que dans le quartier de Brooklyn à New York, une voiture de police a foncé dans un groupe de manifestants qui essayaient de lui bloquer le passage. La voiture est d'abord à l'arrêt, mais lorsqu'une autre voiture de police passe à côté et réussit à se frayer un chemin, la première démarre brusquement et écrase ce qui était devant elle sous la barrière que les manifestants avaient installée. Des manifestations de soutien ont lieu aussi à Londres et à Berlin et évidemment le meilleur moyen de mettre fin à ces mobilisations, ce serait que justice soit faite et qu'elle soit faite durablement.
Tout de suite, on passe au national.
Et international en même temps. Alors oui, on vous apprendra rien si on vous dit que dans les affaires de meurtre commis par la police, l'impunité des coupables est systématique. Une impunité entretenue essentiellement par la machine judiciaire et les nombreux obstacles qu'elle sait dresser face aux familles des victimes. Alors, un rouage encore trop peu souvent pointé du doigt sont les expertises médicales produites par la justice. Alors on a pu assister justement la semaine dernière à deux exemples coup sur coup. Tout d'abord, il y a eu une énième expertise médicale produite par la justice dans l'affaire Adama et qui disculpe les gendarmes de toute responsabilité dans la mort d'Adama Traoré. Et parallèlement aux USA, c'est un premier rapport d'autopsie qui cherche à dédouaner la police dans la mort de George Floyd. Alors concernant l'affaire Adama, alors que depuis 2016, il y a eu de nombreux rapports mensongers que de nombreux rapports mensongers ont trouvé chez lui des pathologies diverses et variées pour expliquer sa mort, et bien cette fois-ci c'est l'idée d'une insuffisance cardiaque qui fait son retour. Adama serait donc mort de fatigue après avoir couru 500 mètres selon la nouvelle expertise. Pourtant cette thèse a déjà été démentie par des spécialistes cardiologues et les expertises indépendantes demandées par la famille. Ces dernières pointait à l'inverse directement une mort liée au plaquage ventral exercé par les gendarmes. Alors le comble dans l'histoire, c'est que cette expertise a été bâclée en quelques mois et que les médecins en question, Benoît de Vazières, Alain Proust et Robert Navarro, n'ont aucune compétence dans le domaine des maladies cardiaques. On se demande bien alors comment ils ont pu diagnostiquer une insuffisance cardiaque. Même scénario aux États-Unis actuellement concernant la mort de George Floyd, où le rapport d'expertise conclut que son décès serait dû à une combinaison entre son état de santé, et notamment une maladie coronarienne, et l'action de la police. Un moyen de déjà commencer à nier l'évidence et nuancer fortement la responsabilité du meurtrier, l'officier de police Derek Chauvin. Alors, comme l'explique le sociologue Geoffroy de la Gannerie, aux États-Unis comme en France, donc, l'expertise médicale est utilisée pour inventer des scénarios où les personnes qui meurent entre les mains de la police ou de la gendarmerie mourraient en fait toutes seules, hein, se seraient en quelque sorte autodétruites, en sorte que le contact qu'ils ont eu avec les forces de l'ordre n'y serait pour rien. Une mécanique bien huilée qui joue directement sur le fait qu'il est dur d'accepter collectivement que des médecins puissent ouvertement mentir. Et pourtant, l'expertise médicale n'est pas un acte indépendant de l'institution judiciaire et de la fabrication institutionnelle du mensonge d'État. qu'elle organise pour protéger les forces de l'ordre. C'est pour s'attaquer à la complicité des médecins avec la police et la justice que la famille Traoré a décidé de dénoncer à l'ordre des médecins les praticiens ayant produit cette nouvelle expertise bidon. Elle a également appelé à un large rassemblement demain à 19h au TGI de Paris pour dénoncer l'impunité policière et ceux qui la perpétuent. On appelle donc tous les Parisiens à y aller pour soutenir la famille Traoré, mais aussi toutes les victimes de la police dans le monde, de Minneapolis à Beaumont-sur-Oise. Et aussi, pour information, il y a un rassemblement appelé demain aux 24 colonnes. J'arrive plus à me souvenir de l'heure exacte.
C'est 19h.
19h, voilà. Mais pour tous les détails, vous pouvez toujours aller sur Rébellion.
Et on enchaîne avec une petite pause musicale.
Alors finalement, non, on n'a pas la musique en question.
Ah, d'accord.
Donc on passe tout de suite
pas avec une pause
au national.
Musicale. Au national, et on va parler de Renault.
Alors Renault, sacrée histoire française, Renault. Créée en 1899, cette entreprise se fait un max de pognon pendant la Première Guerre mondiale. Elle vend des armes, des chars, des avions. Et ouais, la guerre, ça rapporte bien. Et puisque la guerre, ça rapporte, bah, elle soutient Vichy et les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, en 1945, petite vengeance du CNR, elle se fait nationaliser. Mais rassurez-vous, le tandem Mitterrand-Balladur ouvre le capital de l'entreprise en 1994 et la privatisation est quasi totale en 1996, l'État gardant seulement 15% du capital. Entre 1999 et 2017, elle s'allie notamment avec Nissan et Mitsubishi. Toutes ces dernières années, le groupe se porte à merveille. En 2016, par exemple, le groupe réalise une année record de vente avec 3,18 millions de véhicules vendus, devient première marque française et deuxième d'Europe avec 38 usines dans le monde. En 2009, le chiffre d'affaires s'élève à 55,54 milliards d'euros, en légère baisse par rapport à 2008. Mais bon, ça va quoi, ça va bien même. 25 milliards d'euros de profit direct en 10 ans, répartis entre les actionnaires et un fonds de caisse de 10 milliards d'euros. Ses deux représentants principaux, Jean-Dominique Sénard et Clotilde Delbos, vont recevoir en avril, en mai et en juin, respectivement donc 28 000 euros par mois au lieu des 37 500 habituels et 56 000 au lieu des 75 000 habituels. Bel effort. Car effectivement, l'entreprise a vu une baisse considérable de ses rentrées de liquidités depuis la mi-mars. Vous savez très bien pourquoi. Mais c'est marrant. Encore une fois, la direction et les salariés n'ont pas du tout la même idée pour résoudre le même problème. Pour résoudre le problème, plutôt. À l'échelle du groupe, c'est 15 000 emplois qu'ils veulent supprimer, dont 4 600 en France. Et la suppression d'un emploi du groupe engendre la suppression de plusieurs autres dans la filière automobile. C'est un véritable massacre chez les prestataires et l'ensemble de la sous-traitance, et donc notamment pour les 10 000 intérimaires au minimum, au bas mot, qui bossent dans ce cadre-là, dans la filière automobile qui dépendent de Renault en France. On connaît malheureusement déjà les sites ciblés. Choisy-le-Roi, pour une fermeture totale, est également menacé Maubeuge, qui ne va certes pas fermer, mais délocaliser une partie de la production à Douai, toujours en France donc, mais avec son lot de suppression de postes et de mise en concurrence des salariés. C'est pourquoi samedi, à Maubeuge, il y a eu une très grosse manifestation. 8000 personnes, probablement une des plus grosses manifs depuis la fin du confinement. Pour dénoncer l'ensemble des fermetures d'usines et des licenciements à Renault, à Maubeuge, comme ailleurs. À cette manifestation, il n'y avait pas que des salariés de Renault, il y avait des salariés d'AR, un sous-traitant de Renault, des salariés de Toyota également. Clairement, dans le Nord, comme souvent, ce sont plusieurs milliers d'emplois qui sont menacés et ils le savent très bien. Les hospitaliers ont également affirmé leur soutien puisqu'ils ont acclamé les ouvriers quand la manif est passée devant l'hôpital de Maubeuge. Et réciproquement, la tonalité de la manif était clairement un site ou une usine menacée et c'est tout le monde dans la lutte, pas de division. Pas de négociation site par site, ce que cherche déjà à faire, évidemment, la direction de Renault. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Le prêt de 5 milliards d'euros de l'État à Renault récemment annoncé n'enrayera pas les suppressions de postes. Cet argent servira à relancer la courbe du taux de profit de l'entreprise. C'est systématiquement ce qui se passe lorsque l'État exonère des cotisations patronales les grandes entreprises. Et c'est exactement ce qui se passera avec ce prêt. Sauf si, bien sûr, la riposte ouvrière est suffisamment forte pour enrayer ce rouleau compresseur capitaliste qui va toucher de beaucoup trop d'entreprises françaises et dans le monde au profit de la même minorité qui les dirige.
Et on passe maintenant à un sujet sur le harcèlement sexiste sur le réseau social Curious Cat.
Voilà, donc nouvelle affaire de harcèlement sexiste en ligne, c'est quelque chose de très commun, même si on n'en parle pas systématiquement, mais vous vous souvenez certainement de la Ligue du LOL, groupe d'hommes qui s'amusaient à harceler des journalistes féminines et toutes femmes qui avaient une présence remarquée sur le net, surtout si cette présence avait un caractère féministe. Ici, il s'agit d'un réseau social récent, Curious Cat, qui consiste à poser des questions et auxquelles tout le monde peut répondre, sur toutes sortes de sujets. Et il se trouve que de nombreuses femmes sur ce réseau social sont mises à recevoir un certain type de questions. Je crois qu'on n'en écoute pas un extrait parce qu'on ne l'a pas, c'est ça. Donc, on n'écoute pas un extrait. C'est dommage parce que j'aurais aimé vous donner des exemples puisqu'environ la moitié de nos auditeurs n'y seront jamais confrontés. Et il aurait s'agit de savoir de quoi on parle. Vous pouvez quand même aller chercher des extraits sur Internet. C'est très violent. Sur beaucoup de comptes, ce sont des copier-coller. Donc, plusieurs femmes reçoivent les mêmes messages, signe d'une organisation et d'un désir de harcèlement systématique. Parfois, ces messages sont personnalisés et prouvent des recherches poussées sur la vie des femmes en question qui se font attaquer avec des références à leurs enfants, avec des références à des viols qu'elles ont vécus, suggérant qu'elles n'ont pas l'air si traumatisées et que peut-être elles aimeraient ça. En tout cas, ces messages arrivent quotidiennement et s'accumulent par centaines. Certaines ont porté plainte, certaines ont essayé de porter plainte sans succès, puisqu'on leur a répondu que c'était le risque des réseaux sociaux. Alors non, c'est pas le risque des réseaux sociaux, puisque justement, il y a bien la moitié de la population qui peut s'y afficher en toute tranquillité. C'est comme quand on dit que le viol, c'est le risque lié au fait de sortir tard. Outre le fait que les viols arrivent à toute heure, il se trouve que si on est identifié comme masculin, on a quand même beaucoup moins de chances de se faire violer. Le vrai problème, c'est donc le sexisme. Le vrai problème, c'est pas Internet. Le vrai problème, c'est qu'on vit dans une société où on laisse entendre qu'il est normal pour des hommes de prendre du plaisir en torturant des femmes, physiquement, mentalement et évidemment sans leur consentement. Et ce n'est pas parce que tous les hommes ne développent pas ce genre de comportement que ces comportements ne naissent pas dans les manques de notre société. La personne que vous auriez pu entendre en début de vidéo, c'est Naomi. Elle essaie de rassembler les femmes qui sont victimes de cette personne ou de ces personnes, puisqu'on n'en sait rien. Pour le moment, il y a une cinquantaine de femmes qui se sont signalées comme recevant ces mêmes messages. Et évidemment, on espère qu'elles vont réussir à s'organiser, puisque les femmes ont autant le droit que les hommes à avoir une présence sur Internet. On enchaîne avec une musique cette fois, je crois.
Quitarme para que te pongas tú. Antes de yo morirme, tu nombre en una bala. Si tengo que marcharme, está detrás de ella. En mi cabeza brechas a base de pico y pala. De las que estás sin nada, ya nací engorda la pella. Las cosas se acaban, da igual cuando duela. He visto la ruina en los ojos de mis chavalas y he sentido la impotencia de saber las buenas. En un mundo de mierda, haciéndolas sentir las malas. La mitad de casi todo, le joda la sumón. Por mi mamá, por llevarme de la mano pa' la mano. Y por el barrio en que crecimos entre macarras y choni. Dejando hablar primero a las mayores de Lepani.
Y esto tenlo claro, nada fue por la cara. Con la fusa cero a veces desmoralizada. Bailan las palabras al son de la lucha armada. Por mi clase obrera y el honor de las hermanas.
Sincera, maldita, la piba de quién. No sale de casa sin sugas de 100. Mechero en mano, la miel en los labios. El humo blanco atrecho en sus pasos. Ronda la pista, la musa de miles. Soberbia, la calle es lo que la define. Señora perra, barrio bajera. Que no hables de mí como si me conociera. En su mirada la misma rabia que Silvia Rivera. Bastardas. Ella peca, maldice, tontea con la parca, te remata la jugada. Busca la paz, esa chica de mirada, triste, no está claro pero insiste. Lo intentaste y mirando la hundiste y bajo costillas un mal que no viste. Ojeras negras, alma bella, como castigo el recuerdo de ella. Si me olvido el daño hecho, como techo ya lo dejo, ya lo he hecho, pecho. Si supieras que al rato leo el alma, cerrarías algunas payasadas. Ahora pírate, anda, no merecen ni mi venganza.
¿Por qué derramaría sangre ajena? Te olvido y mi perdón no me los trámites. Diciendo nombres propios en una misma esquela.
Soy la queen de este bling bling. Cuando más crece mi drama, más larga mi raya.
Sí.
Mi vida es mi desdicha, prim. Aquí ya no hay espacio en el coro de esta dama.
Si dispacen para Belum. Placa, placa, esos cabrones que apretaron mi cuello.
Desde Vallecas
al mundo entero.
Jurado por Rocío, jurado que lo mío es sagrado. Y que como lo toque este hundo.
Sin
humo,
tus pulmones sin humo.
A llorar y que caiga el diluvio. Y que caiga
te complica. Chica, en este directo no valen tus directrices. Con vuestra cara larga me curo la cicatriz. Ni el tiempo ni el día hace pa' nada como ver llorar a esos primos que quisieron pero no dan nada que hablar. En honor a la verdad, aquí no se está tan mal. Ladran de estas perras porque quieren su collar.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est le Canu Info du lundi. Et vous venez d'écouter donc une rappeuse espagnole qui s'appelle Iera Iera. Et c'était Jurao. Et c'est du rap espagnol féministe antifa. Et on enchaîne tout de suite au national avec un sujet sur une nouvelle stratégie démago d'Emmanuel Macron.
Oui, alors on vous parlait la semaine dernière de la réouverture du parc du Puy du Fou et de la proximité de Macron avec une certaine extrême droite. Hein. Eh bien, la chose qu'on n'avait pas trop décrite alors, c'est la manière dont ces liens de Macron avec l'extrême droite s'inscrivent dans une nouvelle stratégie de communication, hein, démagogique, contre sa baisse de popularité. La réaction de Macron actuellement a donc, enfin, et même depuis quelques temps, été de feigner un lien avec la population. Alors, non pas en écoutant ses revendications ou les syndicats et les associations, mais en communiquant publiquement avec des personnalités dites populaires. Ainsi, récemment, Macron a appelé Jean-Marie Bigard, hein, suite à un coup de gueule de l'humoriste sur la gestion de la crise sanitaire. Un épisode qui laisse perplexe, hein, au premier abord, surtout qu'on se demande quelle légitimité peut bien avoir Bigard, connu pour son sketch « Le lâcher de salope » et pour ses prises de position complotistes autour des attentats du 11 septembre. Mais Macron a également affiché sa proximité avec Patrick Sébastien ou encore Cyril Hanouna et même Didier Raoult, l'espèce de gourou marseillais. Alors derrière ces épisodes médiatiques, l'idée est de mettre en scène pour Macron la sa proximité avec la population. Hein, parce que visiblement aux yeux du pouvoir, la vulgarité et le sexisme de Jean-Marie Bigard en feraient une figure populaire, hein, quelqu'un de proche du vrai peuple. De la sorte, Macron marche directement dans les pas du populisme de droite de Nicolas Sarkozy. Construire une proximité avec le peuple en adoptant une attitude et en ayant des fréquentations proches des valeurs culturelles et identitaires qu'on attribue au dit peuple. Alors plus simplement, on pourrait dire, même si je n'aime pas le terme, c'est jouer aux beaufs, hein, ou fréquenter des beaufs pour montrer qu'on comprend le peuple. Alors derrière cette stratégie se cache une image caricaturale et fantasmée du vrai peuple, blanc, un peu russe, travailleur, vivant dans zone rurale ou périurbaine et chez qui le racisme et le virilisme seraient des marqueurs culturels. Une représentation qui s'incarna un temps dans la figure du gilet jaune, l'extrême droite et les souverainistes y voyant notamment le réveil du fameux pays réel théorisé par le royaliste et antisémite Maurras. Alors derrière cette vision homogène du peuple, hein, se cache en vrai un véritable mépris de classe, l'idée que le racisme et le sexisme seraient innés et propres aux classes populaires. Alors, la vulgarité d'un Bigard ne serait alors que du parler vrai, du parler populaire. Pour Macron, justement, relancer des débats aussi sur l'immigration ou reprendre les thèses de l'extrême droite, ça fait partie de cette même stratégie. Pour le citer, c'est justifié de faire ça par le prétendu aveuglement des bourgeois aux réalités des classes populaires. Une totale démagogie qui cherche à faire appel au bas instinct de la population, développer même, on pourrait dire, un esprit de vindicte qui est propre au temps de fascisation des esprits. Alors cela interroge aussi sur le rôle et le poids problématique des figures comme Bigard, hein, dites populaires, hein, étant donné qu'elle confisque et étouffe la parole de la population et qui participe à diriger le débat public dans un sens qui fait le jeu des puissants. Et au final, elles enferment la population dans certaines pratiques et représentations, notamment en valorisant des comportements oppressifs, là je pense au sexisme en particulier. Donc pour reprendre ma conclusion de la semaine dernière, hein, là encore, la stratégie politique de Macron doit nous alerter sur la part de fascisme qui existe dans le macronisme.
Et on enchaîne avec la RATP.
Ouais, alors, ça continue. On vous parlait la semaine dernière d'Éric Bézou, syndicat Sudrail, qui est directement menacé de licenciement à la SNCF par Muriel Pénicaud elle-même. C'est au tour de la RATP de reprendre la répression syndicale. En passant, en conseil de discipline, deux élus de la CGT, particulièrement investis dans le mouvement contre la réforme des retraites, Alex et Ahmed. Elle s'était déjà attaquée à trois autres d'entre eux avant le confinement pour fait de grève. Imaginez, la CGT parle ici de véritable vengeance de la RATP contre Alex et Ahmed. Eux, comme d'autres, ont travaillé sans relâche sur le terrain pendant le confinement pour dénoncer comment la RATP et le gouvernement les mettaient en danger en transport. Ils ont en effet pas arrêté de dénoncer en CSSCT, sur les réseaux sociaux, dans les médias, que la RATP ne leur offrait aucune protection, que les tickets de bus continuaient à être vendus à bord des bus. Ils ont d'ailleurs fini par gagner, puisque l'inspection du travail leur a donné raison en sanctionnant le 13 mai la RATP, en la mettant en demeure de prendre sous 8 jours des dispositions pour assurer la sécurité à bord des bus, entre autres. Par contre, c'est marrant, la RATP a été vachement plus réactive quand il s'est agi d'appliquer de vraies mesures sanitaires pour les conseils de discipline, lors notamment des phases d'audition, les débuts, les phases préliminaires de ces conseils de discipline. Visiblement donc plus soucieuse de la santé de ses cadres supérieurs présents pour juger ces dangereux gauchistes de la CGT. Alors, étaient présents dans ces conseils de discipline, cloisonnettes en plexiglas, visières, masques et gel hydroalcoolique à l'appel, procédures de distanciation et désinfection des stylos. Mais également une mesure de distanciation, figurez-vous, entre le salarié venu assister et aider le mis en cause pendant le conseil, les mettant donc dans l'impossibilité d'échanger pendant la séance. Bref, du gros n'importe quoi, les conseils de discipline sont de toute façon une mascarade où le salarié convoqué peut perdre son emploi sans avoir le droit à une réelle défense sur décision de la direction. La même direction qui s'est faite choper début mai sur le dépôt de bus du bord de Marne où on a appris qu'elle fichait, oui, elle fichait ses salariés, permettant ainsi de les discriminer pour fait de grève, arrêt maladie et même grossesse. Discriminations qui sont monnaie courante à la RATP. Donc à la RATP, la SNCF, l'éducation nationale, l'inspection du travail, le secteur hospitalier, j'en passe. Les cas de répression sont de plus en plus nombreux. L'impunité patronale doit cesser. Soutien inconditionnel à Alex et Ahmed. Il y a un rassemblement de soutien, alors c'est à Paris, mais pour, si vous pouvez aller à Paris, ce mercredi 10 juin à 13h, dans le 12e arrondissement, 19 place de la Chambaudie.
Et non. On passe... Ah bah je voulais t'introduire, mais on passe maintenant du coup au local avec un sujet sur les rassemblements de sans-papiers.
C'est ça. Alors samedi, un peu partout en France, il y a eu des marches de solidarité avec les sans-papiers. À Paris, c'était plus de 5000 personnes qui ont défilé avec plus d'une centaine d'arrestations en fin de journée. À Lyon, il y a eu deux rassemblements qui ont fini par se rejoindre. A priori, pas d'arrestations à déplorer, mais on écoute tout de suite des prises de parole et des témoignages pris sur place.
Il y a marqué « Ouvrons les frontières, fermons les cras, soutien aux prisonniers et à leurs proches ».
Et tu peux me dire ce qu'on fait ici ?
Là, c'est une manif pour demander la régularisation massive des personnes sans papier et aussi la fermeture des cras, parce que le gouvernement a eu la très bonne idée de prolonger les titres de séjour de tout le monde pendant 3 mois pendant le confinement, et on trouve que ce serait bien qu'il continue.
Pour éviter la pollution de la verbalisation, s'il vous plaît, ça coûte 135 euros, donc je vous le dis. Écartez-vous par groupe de 10 tout en restant à distance raisonnable les uns des autres.
C'est la télévision ?
Non, c'est pas la télévision, ça c'est la radio.
Vous êtes quelle radio ?
Radio Canu.
Et on peut parler, non ? Alors donc on essaie de demander nos droits parce qu'on travaille, je travaille, j'ai des fiches de paie, je cotise à la France, tout, mais j'ai aucun droit. Tout simplement, mes enfants n'ont aucun droit, ils n'ont même pas le droit d'aller, quand l'école leur font faire des voyages ou quoi que ce soit, ils peuvent même pas aller avec l'école. Moi, un type comme moi, ça fait 7 ans que je suis en France, j'ai 3 enfants, j'ai jamais rien eu de l'État.
Ils n'ont pas eu d'autorisation puisque la préfecture s'est fermée encore, c'est pas ouvert pour la présence physique. Ils ont pris l'initiative de faire cette manifestation puisqu'ils ont remarqué que dans toute l'Europe, ils ont commencé à prendre l'initiative de la régularisation. Moi, je suis algérien et qui s'est marié avec un gros artisan français. J'ai passé plus d'un an en Algérie de vie commune et après, je suis arrivée ici sur le sol français. Les délais de fabrication de mon titre de séjour, c'était trop long. Et deuxièmement, ils n'ont pas appliqué les accords de 1968.
Qu'est-ce que c'est les accords de 1968 ?
Donc, l'Algérien, quand elle est mariée avec un ressortissant français, quand elle arrive sur le sol français et quand elle dépasse un an de vie commune, elle fait l'objet de son titre de séjour de 10 ans. Qu'il adopte les normes ou les articles de la loi ordinaire et qu'ils écartent les accords de 1968, ça m'a déstabilisé même psychologiquement, psychiquement. D'ailleurs, j'étais avocate, donc je fais juriste ici avec des associations, de la CIBAD. En plus, ils m'ont donné 2 ans de titre de séjour, après ils l'ont retiré. Si je ne faisais pas l'objet de mes droits, pourquoi ils m'ont donné 2 ans et après ils le retirent ? C'est qu'ils ont joué, ils ont essayé de jouer sur les lois. Aujourd'hui, monsieur Macron, vous avez dit qu'on vit en France, en tranquillité tous. Je ne sais pas s'il a oublié ou il a écarté une catégorie qui n'a pas de papier, qui n'est pas régularisée. On n'est pas ensemble. Il y en a des gens qui sont sans papier. Ils ont peur de présenter leur dossier à la préfecture. Ils sont en train de faire leurs études, mais ils ont peur de se retrouver en face d'une obligation de quitter le territoire. S'ils ne valident pas sa première année, il va vivre avec la peur de se faire rattraper, de se retrouver dans les centres de rétention administrative et la reconduite à la frontière. Alors qu'il est jeune, qu'il est là, qu'il fait des études, qu'il travaille en parallèle, qu'il bosse. Ou effectivement, c'est une, comme ils disent dans les associations, une immigration choisie.
Je suis infirmière, la France a besoin de moi. Et j'arrive pas à travailler malgré, en certains moments, pour la crise de Covid, ils ont besoin des infirmiers. Mon mari et moi sommes des infirmiers, on ne peut pas, trouver un statut pour travailler, c'est ça.
Merci.
Donc on trouve ici, il y a des ingénieurs, il y a des licenciés, il y a des soignants, des soignantes, il y a des médecins, il y a des manœuvres, il y a tous, il y a toutes les catégories ici.
Ça fonctionne, ça marche. Bon, qui veut poursuivre sur les prises de parole ?
À Lyon, par exemple, il a fallu la mobilisation pour que plusieurs dizaines de mineurs soient mis à l'abri. Mais combien d'autres personnes n'ont eu aucune solution ? Alors comment se confiner quand on n'a pas de logement ? Comment manger ? Comment se soigner ? Or la situation d'irrégularité administrative, elle n'est pas due à la nature. C'est toute une politique qui fabrique les sans-papiers. Dans la longue liste des lois qui craignent les sans-papiers, il faut quand même noter la loi Macron-Collomb de 2018. Nombre de personnes sont à nouveau aujourd'hui menacées. Le gouvernement a refusé de fermer les centres de rétention. À Lyon, c'est même un deuxième centre qui est en train d'être construit auprès de l'aéroport Saint-Exupéry. Et cela en dit long sur la politique de Macron. Si le discours change, la même politique se poursuit. Les habitants des squats sont menacés car les convocations au tribunal tombent à nouveau. En Italie, des travailleurs dans toute l'Italie ont fait grève le 21 mai pour protester contre la nouvelle amnistie pour les migrants contenue dans le délai de relance de l'économie. On pourrait s'étonner, mais il s'agit de régulariser provisoirement les sans-papiers qui travaillent pour ramasser les fruits et les légumes et d'exclure tous les autres, ceux qui sont dans la construction, les supermarchés, l'artisanat, la restauration, la logistique. On ne peut donc que saluer une déclaration commune, celle du collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry et la coordination des migrants de Pologne qui ont passé un accord pour agir ensemble en France et en Italie pour la régularisation de tous. On doit aussi saluer le rassemblement spontané sur la place des terreaux des sans-papiers qui viennent de nous rejoindre ici. Nous avions convoqué aujourd'hui une conférence de presse, mais les journalistes ont du mal à se mobiliser un samedi. Par contre, il y avait une conférence de presse aujourd'hui sur les municipales et je ne doute pas qu'ils étaient nombreux à cette conférence. Je vais donner la parole pour le collectif Jeunes Majeurs.
Bonjour à tous. Comme nous tous, nous sommes là pour une cause noble, la défense de nos intérêts, à savoir la régularisation. Quand nous regardons nous tous autour de nous, on voit toutes les communautés qui sont présentes ici. Ça, c'est un acte fort de la solidarité pour moi. Comme je le disais, nous devons se battre. Nous aussi, on commence notre vie. Imaginez, avant le confinement, on était dans un calvaire.
D'avoir des rendez-vous à la préfecture, c'était très difficile et très rare. Actuellement, nous avons vu ce qu'ils nous ont dit. Les récépissés se régularisés sont prolongés pendant 6 mois. imaginez quelqu'un qui a envie de faire par exemple un apprentissage à l'année prochaine, à la rentrée, il ne pourra pas le faire. Et les entreprises ne nous permettent pas d'accéder à leur entreprise quand on n'a pas de papiers.
Les consignes sont toujours d'essayer de garder vos distances sur le groupe, effectivement. Les rassemblements de petites personnes sont interdits. Donc ben, en fait, deux mois, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est, vous l'avez vécu, donc vous savez ce que c'est, hein, c'est deux mois avec les aides alimentaires qui ont d'abord été coupées et surtout une absence totale d'informations. Les institutions publiques qui n'ont pas compris ben, que tout le monde ne parle pas bien français, que tout le monde ne sait pas lire, que tout le monde n'est pas forcément capable de lire des clients, des sites internet du gouvernement. Et c'est quand même deux mois sans aucune aide publique. Aujourd'hui encore, la préfecture est fermée, c'est plus la CPR. Encore une fois, prendre des rendez-vous, c'est seulement en ligne. Très pratique quand on n'a pas l'électricité et qu'on n'a pas, on a du pas redormir. Nous, ce qu'on voulait surtout dire, la crise sanitaire, bah, c'est la politique du gouvernement, la politique des pouvoirs publics qui laisse des personnes à la rue, comme ça, sans argent, sans soins, sans prise en charge, sans pouvoir rien faire, puisque bah, les personnes qui demandent l'asile n'ont pas le droit de travail. Et que ce serait bien que le gouvernement, bah, pour une fois, commence enfin à respecter la convention de l'asile.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est toujours le Canu Info du lundi 1er juin 2020 et on enchaîne avec un sujet, un sacré sujet sur Gégé Collomb.
Et oui, c'est l'heure de la nécrologie, hein, puisque la carrière politique de Gérard Collomb semble définitivement bien morte et enterrée. Alors on aurait préféré que cette carrière s'achève en 77, hein, quand Gérard Collomb est entré au conseil municipal pour ne plus jamais en partir. On rappelle hein, qu'il a été député entre 81 et 88, puis sénateur du Rhône à partir de 99. Gérard Collomb, c'est l'archétype de l'élu local égocentrique, omniprésent, omnipotent et ultra-cumulard. En 2014, par exemple, il avait pas moins de 9 mandats. Alors, on ne va pas revenir hein, sur son passage remarqué au ministère de l'Intérieur, puis son retour opportuniste quand il a senti que le vent tournait à la métropole. L'opportunisme, c'est un peu la marque de fabrique de Gérard Collomb. Pour nous le démontrer une dernière fois, après avoir perdu aux élections, il s'allie aujourd'hui avec ses ennemis d'hier, la droite d'Étienne Blanc. Le volte-face de Collomb est à l'image de sa carrière politicienne, minable et pleine de rage. Son ego, aussi immense que son ambition, n'a pas pu supporter la trahison de David Kimmelfeld. Et plutôt que de se ranger derrière ce qui semblait être sa famille politique, bon, même si avec Gérard Collomb, on a bien compris que sa seule famille, c'était le pouvoir, il a préféré s'allier avec Étienne Blanc, qui, comme son mentor Charles Millon, adore copiner avec l'extrême droite. Oui, d'ailleurs, en parlant de famille, pour l'anecdote, l'arrière-grand-père maternel de Gérard Collomb s'appelait lui-même Étienne-Antoine Blanc. Coïncidence, je ne sais pas. Bref, nous, on est juste contents qu'il se barre, hein, sans mauvais jeu de mots avec Raymond, qu'on salue, et qu'il dévoile... Et qu'il dévoile une dernière fois son véritable visage. Je voulais quand même lui adresser quelques mots avant de lui dire au revoir définitivement. Alors voilà, Gérard, je suis née à Lyon avec toi comme seul horizon depuis 2001 et le temps m'a paru bien long. Je me souviens de tes cavalcades effrayées quand nous rendions hommage à Clément Méric. Tu fuyais devant l'antifascisme tout en fermant les yeux sur les groupuscules néo-nazis qui s'agitaient en ville, pas si loin de ton arrondissement d'ailleurs. Ta vie n'a pas été facile, Gérard. En 2016, tes revenus ont été plafonnés à 4000 euros à cause de ton absentéisme au Sénat. Tu parlais alors d'un vrai cauchemar. Moi, je crois bien que le cauchemar, c'était de t'avoir comme mère. Je pense à toutes ces familles, roms, albanaises, en situation régulière ou non, que tu as délogées. Les expulsions massives de camps dans les années 2000, alors que tu prétendais être socialiste, hein, tu as été un des premiers maires de France à faire des expulsions systématiquement. À l'époque, c'était nettement moins bien vu d'ailleurs, mais pour toi, c'était normal. Le cauchemar, c'est ces refus répétés au fil des années de mise à l'abri des personnes à la rue, y compris lors des plans grand froid, le harcèlement des familles roms au parc des Chartreux. Le cauchemar, c'est quand tu as vendu au capital l'Hôtel Dieu, dont je ne referai pas l'histoire ici. Hein. Le cauchemar, c'est ton délire sécuritaire, les milliers de caméras que tu as déployées dans toute la ville pour aseptiser, éliminer celles et ceux que tu considères comme indésirables, en fait les pauvres. Le cauchemar, c'est ta mégalomanie architecturale, OL Land, le musée des Confluences, la Tour in City, et j'en passe. Le cauchemar, c'est quand tu as porté la loi asile-immigration qui accule les exilés à toujours plus de précarité et à de moins en moins de droits. En fait, Gérard, le cauchemar, c'est toi. Et même si on n'a aucune illusion sur tes successeurs, quels qu'ils soient, ça va nous faire de sacrées vacances de plus voir ta gueule. En 40 ans, tu n'auras montré que tes colères, ton esprit étriqué et rabougri, l'homme aigri et autocrate que tu as toujours été. Tu pars comme tu es venu, en ennemi de notre classe. Allez, au revoir Gérard et coucou aux copains à l'EHPAD.
Après ces belles paroles, on allait écouter l'interview d'une infirmière, mais...
Oui, voilà, on allait faire le point sur la situation à Saint-Jean-de-Dieu où il y a eu une mobilisation le 27 mai. Malheureusement, suite à des petits soucis techniques, nous n'avons pas cette interview que vous pouvez retrouver dès demain sur le blog du Canu Info et qu'on rediffusera probablement dans le Canu Info de mercredi.
Voilà, on est à la fin de l'émission, mais peut-être on peut rappeler la date de demain, 19h.
Pour 24 colonnes, hein, le palais de justice du Vieux-Lyon. En soutien à la famille Adama Traoré qui doit faire face à une nouvelle expertise médicale mensongère et en soutien aux manifestations aux États-Unis.
On rappelle aussi qu'il y a à l'espace communal Guillotière au 45 rue Béchevelin les mercredis et vendredis des distributions alimentaires à 17h30, à partir de 17h30 et le jeudi un marché rouge donc à partir de 17h pour des légumes à 1 euro plus ou moins.
Voilà, et c'est la fin de cette émission. Vous avez écouté le Canu Info du lundi sur Radio Canu 102.2. Et puis on vous dit à la semaine prochaine.
Variation sur une musette de Marin et In the Death Car. Et le morceau Rain New de Maybe Baby 102.2 Radio Canu.